Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office, ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 27 Esfand, 1401 du calendrier iranien, 18 mars 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. Les forces navales iraniennes, chinoises et russes se sont entraînées l'exercice Fotex dans les eaux de la mer d'Oman. Exercice naval conjoint. L'Iran, la Chine et la Russie mènent avec succès des opérations de tir nocturne. Le président Raïsi inaugure 5 nouvelles stations de métro à Téhéran. La République islamique d'Iran veut que ses ennemis sachent qu'il n'y a aucun différend parmi les autorités iraniennes. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'Iran, la Chine et la Russie mène avec succès des opérations de tir nocturne lors d'un exercice naval conjoint. Le contre-amiral Mostafa Tajeddini, porte-parole des exercices navals conjoints dans la mer d'Oman, a annoncé la réussite des opérations de tir nocturne contre des cibles aériennes par les unités participantes de l'Iran, de la Chine et de la Russie. Les exercices conjoints de la ceinture de sécurité maritime 2023, qui impliquent la présence d'unités de surface et aéroportées des trois pays, ont commencé hier soir dans le nord de l'océan Indien. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Le président Ebrahim Raïsi a inauguré 5 nouvelles gares de métro à Téhéran. Le métro de la capitale iranienne est déjà long de 257 kilomètres. S'exprimant samedi matin lors de la cérémonie d'ouverture de 5 stations du métro de Téhéran, Raïsi a décrit la facilitation du transport des passagers dans la métropole de Téhéran comme une préoccupation constante du gouvernement et a apprécié les efforts menés à cet effet. Le président Raïsi a fait référence au travail formidable des spécialistes iraniens pour le développement du pays dans divers domaines et a précisé « Les personnes qui sont fidèles à l'islam, à la révolution et à l'ordre de la République islamique d'Iran devraient savoir que beaucoup de travail a été fait dans ce pays grâce aux efforts et à la persévérance de nos chers jeunes, mais beaucoup de travail reste encore à faire. » Le métro de la capitale iranienne est déjà long de 257 km et muni de 148 gares. D'après le plan de la mairie, la longueur de la ville souterraine de Téhéran doit atteindre 491 km. la longueur du réseau du métro de Paris n'est que de 220 km. Téhéran veut que ses ennemis sachent qu'il n'y a aucun différend parmi les autorités de l'ordre islamique. Dans un tweet, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que les visites du secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, Ali Shamkhani, aux Émirats arabes unis et en Irak, se déroulent dans le cadre des relations de sécurité bilatérales et a écrit « Tout est dans le cadre des intérêts de l'ordre islamique et s'effectue sous l'égide du président Raïsi. Que les ennemis sachent qu'il n'y a aucun différend parmi les autorités iraniennes. » Selon l'IRNA, Hossein Amir Abdullahian a tweeté au sujet des visites d'Ali Shamkhani, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne aux Émirats arabes unis et en Irak. Les visites du vice-amiral Shamkhani aux Émirats arabes unis et en Irak s'inscrivent dans le cadre des relations bilatérales de sécurité. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Le représentant du ministère des Affaires étrangères l'accompagne dans ses déplacements, a-t-il ajouté. Réagissant à la position hostile du Parlement européen concernant la question de l'empoisonnement des écolières iraniennes, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré « Le Parlement européen est devenu un lieu de propagation de la haine contre le peuple iranien. À un moment où la République islamique d'Iran poursuit sérieusement cette question, au plus haut niveau dans le pays, et où les équipes spécialisées du ministère de la Santé poursuivent sérieusement leurs enquêtes, l'approbation d'une résolution par le Parlement européen et la répétition d'accusations sans fondement et partiales contre notre pays est surprenante et regrettable, a déclaré Nasser Kanani en réponse à la décision du Parlement européen concernant des événements suspects faisant l'objet d'une enquête liée à l'empoisonnement des écolières en Iran. Il est honteux que certains exploitent les actions de certains auteurs de ces crimes comme un outil pour ternir l'image de l'Iran et inciter la haine contre la République islamique d'Iran. Ils utilisent l'incident comme un nouveau sujet pour poursuivre leur inimitié sans fin contre l'Iran, a encore déploré Nasser Kanani. Le président chinois Xi Jinping aborde sa visite de lundi en Russie, fort du rapprochement qu'il vient d'orchestrer entre l'Iran et l'Arabie saoudite, un exploit qu'il espère renouveler dans le conflit ukrainien. Tout juste investi d'un troisième mandat, le dirigeant chinois, qui cherche à renforcer le rôle de son pays sur la scène internationale, a vu même les États-Unis saluer son rôle de médiateur dans le rétablissement surprise des relations entre Téhéran et Riyad le 10 mars. De la même façon, l'intention de la Chine est de jouer un rôle constructif dans la promotion des pourparlers de paix, a assuré vendredi Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le Wall Street Journal a affirmé au début de la semaine que Xi Jinping prévoyait de parler bientôt à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, une hypothèse là aussi saluée comme une très bonne chose par la Maison-Blanche. D'ici là, les Occidentaux espèrent qu'il profitera de cette visite à Moscou pour appeler son vieil ami Vladimir Poutine à mettre un terme au conflit. La colère monte en France après que le président Emmanuel Macron a annulé le Parlement et imposé une réforme controversée des retraites. Dans la capitale, Paris, des manifestants ont bloqué l'une des principales autoroutes autour de la ville. La police a utilisé des gaz lacrymogènes, des matraques et des canons à eau pour les disperser. Le ministre de l'Intérieur affirme que plus de 300 personnes ont été arrêtées. Cela survient après que le gouvernement français a imposé ses plans de réforme des retraites très impopulaires sans vote au Parlement jeudi dernier. Le projet de loi fera passer l'âge de la retraite en France de 62 à 64 ans et rendra également plus difficile l'obtention d'une pension à taux plein. Pendant ce temps, le chef de l'un des groupes politiques d'opposition à l'Assemblée nationale française a décidé de déposer une motion de censure contre le gouvernement pour cette même raison. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Les unités participant aux manœuvres navales conjointes ceinture de sécurité maritime 2023 ont effectué les exercices FOTOX. Le contre-amiral Mustafa Tajedini, porte-parole des manœuvres navales, intitulé « Ceinture de sécurité maritime 2023 », a déclaré que les unités flottantes de l'Iran, de la Chine et de la Russie s'était entraîné pour la mission FOTOX. Toutes les étapes de l'exercice se déroulent sous la supervision aérienne des hélicoptères de la marine de l'armée et du corps des gardiens de la révolution islamique, a-t-il déclaré. La présence de la République islamique d'Iran dans les coalitions internationales témoigne de l'amélioration du statut international du pays, qui attache une importance particulière au rétablissement de la sécurité régionale et internationale. Et c'est pour cette même raison que les forces navales iraniennes préviendront toute menace dans la zone maritime. Les forces navales de la Chine, de l'Iran et de la Russie ont organisé des exercices conjoints dans le nord de l'océan Indien, dans le courant de la journée de jeudi. Les tirs sur les cibles aériennes dans l'obscurité ont été couronnés de succès, a-t-il déclaré. Le tir sur des cibles aériennes dans l'obscurité nécessite une coordination. Le scénario de cet exercice a été conçu et mis en œuvre avec succès sur la base d'un langage tactique commun entre les forces navales iraniennes, composées de la marine de la République islamique d'Iran et des forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique, ainsi que celles de la Chine et de la Russie, a-t-il expliqué. Parmi les autres objectifs figurent le renforcement de la sécurité du commerce maritime international, la lutte contre la piraterie et le terrorisme maritime, les mesures humanitaires et le partage des connaissances, a ajouté le contre-amiral Tajedini. Il a fait allusion à l'importance de la région du nord de l'océan Indien et a conclu « Le nord de l'océan Indien se situe entre trois détroits stratégiques du monde, les détroits d'Ormuz, de Malacca et de Bab el-Mandeb, sont situés respectivement au nord, à l'est et à l'ouest de l'océan Indien, entourant l'ellipse énergétique mondiale, ce qui a doublé la nécessité d'assurer la sécurité du commerce maritime en raison du trafic de navires commerciaux et pétroliers dans cette zone sensible. La marine de la République islamique d'Iran a annoncé mercredi le début d'exercices navals avec la participation de l'Iran, de la Russie et de la Chine dans le nord de l'océan Indien. la marine, a précisé que ces manœuvres étaient appelées ceinture de sécurité maritime et qu'elles se poursuivraient pendant 5 jours. Les récentes manœuvres entre la République islamique d'Iran, la Russie et la Chine remontent au début de l'année dernière et le ministère russe de la Défense a déclaré à l'époque qu'elle comprenait diverses opérations tactiques dans le cadre du renforcement de la sécurité du commerce maritime international, de la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime, de l'échange d'informations dans les domaines de la recherche et du sauvetage et de l'échange d'expériences.
Bonjour à tous, bienvenue dans les studios de Presse TV, ici dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour étant le 49-3. En effet, le sujet de la retraite a été décidé, mais est passé outre l'Assemblée, puisque l'État, le gouvernement français, a décidé de faire passer cette réforme des retraites par le 49-3. Les Français sont-ils contents ? Acceptent-ils la décision ? C'est le sujet d'aujourd'hui concernant les manifestations à Paris, mais également dans toutes les provinces de France. Tout de suite, donc, je vous propose notre reportage qui fait le point sur ces manifestations. Et par la suite, nous ferons venir donc nos invités pour en discuter. Alors, tout de suite, nous allons faire venir nos invités. Tout d'abord, M. Xavier Dupré, donc notre économiste pour aujourd'hui. Bonjour, M. Xavier Dupré.
Bonjour madame.
Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Alors notre deuxième invité n'est pas encore arrivé. On va l'attendre. On va commencer le débat entre nous et par la suite il viendra. Donc Monsieur Dupré, en tant qu'économiste, il y a eu des propos, des réactions cette semaine de la part d'économistes, mais notamment d'un qu'on disait grand conseiller de Emmanuel Macron, Monsieur Attali, qui a finalement indiqué qu'il y avait d'autres moyens de trouver les 13 milliards qu'il manquait pour subvenir aux retraites. Et donc, cette réforme n'était pas forcément une obligation de survie. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et qu'est-ce que c'est que ce retranchement, finalement, de M. Attali, qui était quand même un des conseillers proches de M. Macron, le président de la République ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a de disloquance, une dissonance au sein du gouvernement français ?
Alors, je suis très heureux de constater qu'aujourd'hui, Jacques Attali et du même avis que les réseaux d'économistes hétérodoxes en France. J'espère que cela conduira les médias français à donner à ces derniers davantage de présence et un peu moins à M. Attali. M. Attali qui est par ailleurs très bien placé pour savoir qu'il y a effectivement d'autres moyens de financer les retraites en France, puisque c'est lui qui aura, avec d'autres, conseiller à Emmanuel Macron et à l'équipe au pouvoir, à l'équipe en place au pouvoir en ce moment en France, de pratiquer des crédits d'impôt aux entreprises et de diminuer la portée redistributive de l'impôt. Je pense notamment à l'abandon de l'impôt sur la fortune. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue économique ? Ça signifie d'un point de vue financier, finances publiques, que quand on a affaire à un défi, une difficulté de financement d'une mesure sociale, d'une politique sociale, en l'occurrence ici les retraites, il y a deux méthodes pour parvenir à boucler le décalage entre les recettes et les dépenses, c'est quelque part diminuer les dépenses, et donc ça serait ici dans ce cas-ci augmenter la durée du temps de travail sur toute la carrière, sur toute la vie, c'est ce qui est en jeu, c'est ce qui est proposé par Emmanuel Macron, ou davantage activer les recettes et la redistribution fiscale. Je constate que c'est ce qui a été pallié jusqu'à présent d'un revers de la main par le gouvernement Borne et par Emmanuel Macron, et là maintenant on voit Jacques Attali penché vers ce type de solution qui, jusqu'à présent, avait été assez méprisé par l'establishment, et alors que c'était clairement le message des économistes atterrés, de toute une série d'économistes, de réseaux d'économistes hétérodoxes en France jusqu'à présent. Alors je crois qu'il faut vraiment voir ça comme étant une séquence politique. Aujourd'hui, d'abord, il n'était pas certain qu'Emmanuel Macron disposait, puisque il est question aujourd'hui de faire passer au 49-3, donc par la voie décrétale et non, donc en, quelque part en faisant fi d'un débat parlementaire, d'un vote parlementaire, il est question donc de faire passer de force ce projet de réforme des retraites, et parce qu'il n'était pas clair en début de semaine qu'Emmanuel Macron disposait d'une majorité à l'Assemblée nationale.
Merci, Monsieur Dupré. Alors, notre deuxième invité étant arrivé, Monsieur Habib Taba, donc journaliste, c'est lui notre expert média qui va participer donc à ce débat. Bonjour, Monsieur Habib Taba, ravi de vous avoir.
Oui, merci de me recevoir. J'ai écouté la fin de l'intervention de mon collègue belge. Évidemment, je ne suis pas économiste, mais je suis beaucoup plus historien et je vois les perspectives, les tendances générales. La tendance générale qui est prise par Emmanuel Macron était une tendance qui est liée à des visions bancaires, à des visions financières et non pas à des visions sociales. La preuve qu'il ne s'intéresse pas à la société, c'est qu'il a refusé de recevoir les grévistes la semaine dernière, alors qu'on lui demandait que l'ensemble des grévistes voulaient être reçus par le président. Il a dit aller voir le ministre du Travail, c'est-à-dire aller vous faire voir, comme on dit vulgairement en français. Donc nous sommes dans une situation où il y a un parti qui est au pouvoir, c'est le parti des financiers, qui veut mettre au pas la société. Et ça ne va pas plus loin. Les détails sur le fait que ce soit la retraite à 60 ou à 64 ou des finasseries de cette espèce, c'est une façon de masquer le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'il y a une volonté de faire régresser la société. Celle-ci est patente depuis l'arrivée de Macron et même bien avant. On le voit par exemple dans la façon dont les gilets jaunes ont été réprimés avec une violence inouïe et injustifiée au demeurant. C'est-à-dire qu'il y a un refus du dialogue, il y a une politique du marche ou crève. Et en réaction à cette politique du marche ou crève, vous avez eu ces émeutes qui se sont passées hier soir à la place de la Concorde, et je ne pense pas que le problème soit un problème technique, c'est un problème politique. On parle souvent de la science économique. En réalité, autrefois, on disait l'économie politique. Et là, il s'agit d'un problème d'économie politique. La politique impose des choix, mais ensuite, la machine suit, l'intendance suit, comme disait De Gaulle. Donc, il me semble que sans un changement radical de politique économique et de volonté politique de reconnaître la situation du peuple français, des gens en France, de la misère qui se développe, des tensions sociales, rien ne se fera. Qu'aujourd'hui, le pouvoir dispose de l'appui implicite, je dis bien implicite, de Mélenchon et même de Marine Le Pen, ne signifie pas que la marmite ne bouille pas, et la marmite boue, et une cocotte minute, ça peut éclater.
Merci, monsieur Habib Taba. Alors, monsieur Xavier Dupré, alors, vous-même étant économiste, on a vu des signes de l'économie, du déclin de l'économie européenne depuis un moment, notamment le documentaire sur Jacques Chirac où il indique qu'il avait été un mauvais président, notamment c'est sous Chirac, où la France est rentrée dans l'Union européenne. Est-ce que tout ce déclin date de cette époque-là, parce que beaucoup mettent sur le dos l'Union européenne de cette crise en France? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette tendance politique d'expliquer la situation actuelle de la France?
Au vaste débat, je ne suis pas sûr qu'on aurait suffisamment de temps, 5 minutes, pour répondre à cette question. Ce que je sais en tout état de cause, c'est qu'il est évident que depuis le début des années 80, je rebondirai sur ce que disait mon interlocuteur il y a quelques secondes, oui, on voit clairement qu'un autre bloc au pouvoir, un autre bloc hégémonique est aujourd'hui au volant, conduit les affaires au sein des grandes nations occidentales. Ce bloc hégémonique, c'est, pour le dire rapidement, la grande bourgeoisie d'affaires, les élites de la haute administration et les classes moyennes qui se sont quelque part liguées contre les classes populaires. Est-ce qu'on pourrait assister, avec la crise qui est en cours aujourd'hui, je pense notamment à l'inflation qui monte, à un réalignement des classes moyennes en faveur des classes populaires, ce qui ferait changer le bloc hégémonique au pouvoir? C'est ce dont il est question, parce que quand on parle de politique, osons parler vraiment de politique, c'est-à-dire pas parler de gens, d'événements, de ce qui s'est passé avant, mais si on parlait de structures qui fonctionnent et qui produisent des effets de structuration du pouvoir au sein des sociétés. Donc de ce point de vue-là, moi je vous dirais bien ceci, c'est que la construction européenne, elle a eu lieu dans le cadre de réaménagements d'hégémonie au pouvoir qui se sont produits dans toutes les nations occidentales. Aux États-Unis, c'était le réganisme, et au Japon, ça a été l'avènement de politiques monétaristes très dures, qui ont d'ailleurs débouché sur de grosses crises financières très tôt au Japon. Donc la construction européenne en elle-même n'est ni de droite ni de gauche. Elle est orientée en fonction d'hégémonies de classe qui sont présentes au sein des États membres. Il se trouve que depuis une quarantaine d'années, c'est ce bloc idéologique hégémonique, classe moyenne, bourgeoisie, qui est aux commandes. Il est peut-être déjà en train de se fracturer. Et c'est comme ça qu'il faut analyser, je crois, la séquence à laquelle on est aujourd'hui confronté en France. Si une bonne partie des députés républicains, donc cette droite plutôt conservatrice qui au départ était assez favorable au projet d'Emmanuel Macron, si une partie de cette droite semble aujourd'hui vouloir s'orienter vers peut-être un vote de censure transpartisan contre le gouvernement Borne, eh bien c'est le signe que quelque chose est en train de se modifier en profondeur dans la société. Évitons, quand on parle de politique, de ne regarder que la pointe de l'iceberg. 80% d'un iceberg est sous l'eau. Eh bien, c'est la même chose quand on parle de politique. Quand on parle de politique et qu'on veut vraiment en parler, parlons de classe sociale, parlons des alliances de classe, des hégémonies de classe. Ça, c'est les 80% de la glace qui est sous l'eau. Et c'est en train de se modifier un peu partout en Europe. Vous pouvez rapprocher ce scrutin, enfin, ces difficultés en France, du scrutin des élections provinciales qui a eu lieu aux Pays-Bas. C'est un parti qui est considéré comme populiste, climato-sceptique, enfin hors establishment, qui a sans doute vraisemblablement, qui a gagné les élections. On voit ce phénomène de défiance qui est en train de monter partout. Dans la partie francophone de la Belgique, c'est la montée d'un parti comme le PTB, qui est un parti qui était autrefois maoïste et qui est aujourd'hui un parti plutôt de gauche radicale, on dirait socialiste radical. Il y a eu un réalignement là-dessus. Donc je crois qu'on est en train de vivre un moment de basculement de l'hégémonie de classe, après finalement et c'est un peu logique qu'on le vive, parce que ces basculements hégémoniques se produisent au terme de grandes crises structurelles. Or la crise de 2008 était bien l'entrée en crise du modèle d'accumulation néolibérale qui s'est généralisé en Occident à partir de la fin des années 70, début des années 80. Et en règle générale, de grandes crises comme celle-là induisent des modifications structurelles, des rapports de force entre groupes sociaux dans les sociétés, et ces réaménagements de rapports de force prennent du temps.
En fait, est-ce qu'on peut dire que contrairement à certains pays européens, la France a trop allé dans la tendance hyper-mondialisation, puisque quand on regarde les compagnies françaises, elles ne sont plus 100% françaises. Est-ce que c'est une des raisons aussi qui va vers cette voie catastrophique et donc de ce changement structurel dont vous êtes en train de parler?
Ça fait partie évidemment du paysage derrière lequel se trouve, dans lequel s'inscrivent ces évolutions. Évolutions qui sont par ailleurs constatables dans la plupart des pays européens, à l'exception, et là encore avec des nuances, de l'Allemagne. Mais là encore avec des nuances. Si vous prenez un grand constructeur automobile comme Opel, aujourd'hui il est passé sous la coupole de Stellantis, qui est fondamentalement une alliance autour de Fiat et de Peugeot, dominée par PSA, qui est Peugeot, enfin c'est Carlos Tabarès qui est un peu qui est le patron dominant de cette alliance-là. Donc il y a même des éléments du capital industriel allemand qui sont quelque part disloqués, déracinés et inscrits dans des réseaux mondiaux qui les isolent du circuit économique national allemand. Ça, c'est une évidence, oui, ça fait partie de cette mondialisation néolibérale.
Merci, monsieur. Merci, monsieur Dupré. On va demander à monsieur Habib Tawaf ce qu'il pense, notamment au niveau. On a vu le président français ces dernières semaines, alors que la France était dans les rues. On peut dire ça comme ça, puisque tous les secteurs d'activité ont fait grève pratiquement. Des secteurs d'activité comme l'électricité, comme on l'a bien pu voir, les éboueurs, mais également l'aviation civile. Ce que j'ai envie de poser, c'est qu'on a vu un président français se mettre en retrait et envoyer ses ministres faire preuve de ce qu'il a exprimé comme mot de démagogie. Est-ce que ça laisse penser aussi à un retour de situation entre ce que représentait le président avant donc les mandats Chirac et maintenant, c'est-à-dire ce sont le gouvernement, donc les ministres avec son premier ministre et son cabinet qui représente et qui parle aux Français et le président se limite à tout ce qui est extérieur?
Il y a deux points pour répondre à votre question. Il y a d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des volontés politiques. Il y a des volontés politiques qui sont d'origine économique. Ça, c'est indiscutable. Mon collègue l'a très bien dit. Mais là où je serais, si vous voulez, un peu enclin à ne pas voir l'optimisme, parce qu'il est relativement optimiste, il pense que les classes qui sont défavorisées vont finalement se rallier aux classes moyennes, etc., etc. Moi, je vois, au contraire, l'affaissement des classes moyennes qui est en vue. Et je ne les vois pas tenir du tout avec force l'opposition. La preuve, c'est que 70% des Français étaient pour les gilets jaunes et ça n'a pas empêché le gouvernement de les mettre à genoux. Aujourd'hui, les problèmes de retraite sont des prétextes. Tout ça, ça reste lié à une volonté politique d'oligarchie très puissante à l'échelle internationale et qui voudrait financiariser, et qui ont d'ailleurs réussi à financiariser pour l'essentiel l'économie. L'économie est beaucoup moins une économie de production qu'une économie prédatrice dans laquelle l'argent est le maître. Ça, c'est un premier point. Le second point qui me préoccupe aussi, c'est que d'une manière ou de l'autre, on se retrouve dans la situation de Mme Thatcher. Mme Thatcher a réussi à casser le mouvement social en Angleterre. Elle a mis à genoux, et aujourd'hui, la situation du welfare state, comme on disait là-bas, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'État, qui contribue à l'amélioration de la société, tout ça a été démoli par Mme Thatcher et continue de l'être, d'ailleurs, par la privatisation à tout craint, etc. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des révoltes, ce n'est pas parce qu'il y a des réactions très puissantes, mais ça suffit. En Allemagne aussi, puisqu'on a parlé de l'Allemagne, il y a eu des réactions très fortes, des manifestations, que ce soit Die Linke ou bien que ce soit de l'AfD, tous les deux dans le même sens, représentent un soulèvement populaire contre des lobbies financiers. Et ce sont les lobbies financiers qui ont fait avaler, par exemple, en Allemagne, le fait que le Nord Stream a été dynamité de façon évidente contre l'intérêt de l'Allemagne, et ces gens-là se disent on va déplacer les finances allemandes aux États-Unis et puis ça nous est tout à fait égal ce qui se passe dans le pays. Contre ça, il existe évidemment des gens qui disent mais enfin, nous avons un outil de travail, etc., etc. Quand je dis outil de travail, j'entends des riches et des puissants qui, eux, disposent d'intérêts puissants en Allemagne et qui vont être marginalisés dans ce genre de situation. Donc aujourd'hui, il y a un processus qui est en cours, qui est soutenu par la haute finance internationale et malheureusement, je n'ai pas l'optimisme de mon collègue sur le possible redressement et rééquilibrage. Il y a eu la crise de 2008. Nous avons l'impression d'être dans une nouvelle crise puisqu'il y a eu la faillite de la banque de Silicon Valley. Il y a une crise autour du Crédit Suisse. Donc, il y a effectivement un problème, mais le problème pourrait se limiter simplement à une bataille entre des gros investisseurs comme d'une part BlackRock et d'autre part Vanguard. Mais ça, ce serait tout un développement. En fait.
Merci, Monsieur Habtawa. Monsieur Xavier Dupré, rapidement, en conclusion, on a parlé, notamment la représentante de l'Union européenne avait parlé de destruction pour construire. Est-ce qu'on peut s'attendre à des situations bien plus pires dans les mois à venir, notamment également avec cette guerre en Ukraine qui va avoir un coup de tension dans les 6 prochains mois? Rapidement, en quelques minutes, est-ce qu'on va faire face à des situations bien plus pires en Europe?
Je pense qu'on est en tout cas parti pour l'instant pour une radicalisation des positions et de la crise. Je voulais simplement ajouter ceci, c'est que la crise des années 30 a été bien plus terrible en Europe. Elle a fini par déboucher au bout d'une quinzaine d'années sur la création et l'aménagement d'États sociaux puissants. Donc l'idée que la crise est éternelle, qu'elle est unilatérale et qu'elle ne fait que dominer les acteurs populaires, ça c'est typique d'une propagande d'extrême droite que je ne rejoins pas, parce que tout simplement l'histoire me permet de prouver que ça n'existe pas et que ça ne se fait pas dans ces termes-là. Il y a vraiment des possibilités de résistance et de jeu d'acteurs. Donc le pire n'est jamais atteint. Quant à la crise qui est devant nous, elle est une réédition en partie de la crise de 2008, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui s'est passé en 2008, et c'est pour ça qu'il faut être très mesuré et très précis dans les comparaisons que l'on dresse, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, en 2008, j'avais une situation clairement de déflation. On voyait les prix, le niveau général des prix baisser. Aujourd'hui, j'ai une situation qui est plutôt une croissance faible, qui va s'affaiblir dans les mois qui viennent, et une inflation qui va rester importante. Et donc ça, c'est un tout autre type de configuration de la société. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quelque part, et c'est ça qui est un fondement d'espoir, les élites dominantes ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Si elles augmentent les taux d'intérêt, elles vont fragiliser la croissance et peut-être créer des équivalents de crise bancaire à ce qui existait en 2008. Et en même temps, si elles ne relèvent pas les taux d'intérêt, elles vont avoir des mouvements d'opposition populaire contre l'inflation. Donc quelque part, la situation est beaucoup plus favorable pour des mouvements sociaux et des mouvements protestataires qu'en 2008, puisque quelque part, ici, il n'y a plus de sortie unilatérale de crise pour le pouvoir. Et merci. Ça, évidemment, ça pousse à la radicalisation, parce qu'on voit qu'il y a du jeu. L'élite est nue, le roi est nu, comme on disait dans certaines pièces autrefois.
Et merci, ça, c'est très important en termes de débat politique. Ce sont vos mots qui vont donc conclure ce débat. Je remercie à nos deux invités, encore une fois, à nos deux experts du jour, M. Xavier Dupré, donc l'économiste, notre expert économique d'aujourd'hui, et M. Habtawa, journaliste, donc notre expert média du jour. Je vous remercie encore à tous deux. Je vous remercie, vous, chers auditeurs, de nous suivre. Vous pouvez nous retrouver sur notre site, mais également nos différents réseaux sociaux, dont Telegram et VK. N'hésitez pas à nous regarder, à regarder les autres sujets de débat. Je vous dis donc à bientôt pour un autre sujet, un autre jour. Au revoir, à partir des studios de Presse TV.
Afrique économique.
L'effondrement des banques et la crise financière aux États-Unis. La malédiction de Forbes frappe à nouveau, a crié mardi 14 mars en titre du Daily Mail, alors que la Silicon Valley Bank, un fournisseur de dettes à risque, soutenant les startups technologiques aux États-Unis, s'est effondré dans une chute vertigineuse. La banque basée en Californie est devenue la première institution bancaire américaine de premier plan à faire faillite depuis la crise financière de 2018, dans un effondrement spectaculaire qui a provoqué des vagues de choc à travers le monde. Fait intéressant, la banque ACG figurait sur la liste annuelle des meilleures banques américaines de Forbes, quelques semaines seulement avant que les régulateurs fédéraux n'interviennent pour la fermer et saisir tous les dépôts de la banque. Sur un ton d'autosatisfaction et de triomphe,
La banque a immédiatement annoncé l'exploit sur ses réseaux sociaux et a souligné qu'elle figurait sur la liste convoitée pendant 5 années consécutives. Fière d'être dans le classement annuel Forbes des meilleures banques américaines pour la 5e année consécutive et d'avoir également été nommée sur la liste inaugurale des Financial All-Stars de la publication, a tweeté Silicon Valley Bank lundi dernier. La page Twitter a depuis été fermée et le site web a également été supprimé. Ce compte n'existe pas, indique le compte Twitter. Placé en 20e position, la liste Forbes place le total des actifs du groupe financier SVB, fondé en 1983 et propriétaire de la Silicon Valley Bank, à 213 milliards de dollars et le ratio d'efficacité à 56, bien au-dessus de la State Street Corporation, basée dans le Massachusetts, et de la First Republic Bank, basée en Californie. Après que la banque a annoncé sa faillite, le site web du magazine a ajouté une note éditoriale sur la page « America's Best Banks », notant que la banque s'est depuis effondrée et a été placée sous le contrôle de la FDIC le 10 mars en raison d'une panique bancaire provoquée par des craintes sur son exposition au taux d'intérêt. Après l'imposition de la Silicon Valley Bank, une institution financière basée à New York, Signature Bank a également fermé ses portes dimanche, car les régulateurs craignaient que cela ne mette en péril l'ensemble du système financier. Signature Bank comptait 40 succursales, des actifs de 110,36 milliards de dollars et des dépôts de 88,59 milliards de dollars à la fin de 2022, selon un dossier réglementaire tel que rapporté par CNBC. Maintenant, des rapports émergent selon lesquels la First Republic Bank, la 14e plus grande banque des États-Unis, qui a également figuré récemment sur la liste Forbes des meilleures banques américaines, pourrait également se diriger vers la catastrophe. Les médias sociaux ont été remplis de messages au cours du week-end, montrant des gens faisant la queue devant les succursales d'une banque basée à San Francisco, en Californie, pour retirer leur argent, suscitant des inquiétudes parmi les clients quant au fait que le phénomène pourrait toucher leur banque aussi. Avant la dernière vague de faillites bancaires, a commencé par Silicon Valley Bank, Almena Bank, basée au Kansas, et First Bank of Florida ont fait faillite en octobre 2020 et ont été reprises par la FDIC. Contrairement à la Silicon Valley Bank et à la Signature Bank, Almena Bank et First Bank of Florida étaient de taille relativement plus petite, avec environ 200 millions de dollars de dépôts combinés. La catastrophe de la SVB est la pire depuis septembre 2008, lorsque Washington Mutual, avec 307 milliards de dollars d'actifs, avait faillite à la suite de l'effondrement choquant de la banque d'investissement Lehman Brothers. Le président Joe Biden, dans le but de restaurer la confiance dans le système bancaire américain, s'est adressé lundi aux Américains au sujet du plan d'urgence de son gouvernement pour contrôler les dégâts causés par la chute de 2 banques. Les Américains peuvent être assurés que notre système bancaire est sûr. Vos dépôts sont en sécurité, a déclaré Biden. Permettez-moi également de vous assurer que nous ne nous arrêterons pas à cela. Nous ferons tout ce qui est nécessaire en plus de tout cela. Cela, cependant, n'a pas suffi à apaiser les républicains en colère qui ont accusé le président démocrate d'avoir lâché une frénésie de dépenses de plusieurs billions de dollars qui a alimenté l'inflation et des taux d'intérêt élevés. Certains autres ont critiqué les autorités fédérales pour ne pas avoir anticipé l'effondrement de la SVB, tandis que le sénateur Bernie Sanders a blâmé une politique de l'ère Trump pour la crise financière qui couvait. Soyons clairs, l'échec de la SVB est le résultat direct d'un projet de loi absurde de 2018 sur la déréglementation bancaire signé par Donald Trump, auquel je me suis fermement opposé, a écrit Sanders dans un communiqué dimanche, faisant référence à la loi sur la croissance économique, l'allègement de la réglementation et la protection des consommateurs. Biden a également semblé renvoyer la responsabilité à son prédécesseur, affirmant que la dernière administration avait annulé les réglementations. Trump a riposté, affirmant que Biden deviendrait le Herbert Hoover de l'ère moderne. L'économiste Vedora Tenikon, dans un article pour l'Associated Press, a cité le risque de taux d'intérêt et le risque de liquidité comme deux facteurs clés responsables de la crise financière actuelle à laquelle sont confrontées les banques américaines. La Réserve fédérale a relevé ses taux de manière agressive, de 4,5 points de pourcentage, dans le but de maîtriser la flambée de l'inflation. En conséquence, le rendement de la dette a bondi de manière proportionnelle, a-t-elle écrit. Avec plus d'un billion de dollars de dépôts bancaires actuellement non assurés, je pense que la crise bancaire est loin d'être terminée, s'est-elle empressée d'ajouter. L'animateur de talk show, Stuart Varney, a fait valoir que les dépenses énormes de l'administration Biden, la politique monétaire inflationniste de la Réserve fédérale et la terrible gestion des banques avaient précipité la crise bancaire. Revenez un instant en arrière. Qui est à blâmer pour cela? À mon avis, ce sont les dépenses massives de l'équipe Biden et l'impression massive d'argent par la Réserve fédérale qui ont créé l'inflation, qui ont poussé la Fed à la hausse des taux d'intérêt la plus rapide depuis des décennies, a-t-il déclaré lors de son émission lundi. Où allons-nous? Honnêtement, c'est difficile à dire. La crise se déroule en ce moment même. La crise n'est pas venue sans avertissement. Dans une analyse détaillée publiée dans The Atlantic en juillet 2020, le professeur de droit de l'Université de Californie, Frank Partney, a évoqué des chaînes d'approvisionnement brisées, un chômage record, des petites entreprises défaillantes, pour avertir d'une crise bancaire imminente. Tous ces facteurs sont graves et pourraient plonger les États-Unis dans une récession profonde et prolongée. Mais il y a aussi une autre menace pour l'économie, a-t-il écrit. Cela se cache dans les bilans des grandes banques, et cela pourrait être cataclysmique. Imaginez si, en plus de toute l'incertitude entourant la pandémie, vous vous réveillez un matin pour constater que le secteur financier s'était effondré. Que le dernier cas de faillite bancaire de l'histoire des États-Unis, mais certainement l'un des plus importants. L'histoire des catastrophes bancaires dans le pays remonte à 1819, après la fin des guerres napoléoniennes, et la deuxième banque des États-Unis s'est retrouvée embourbée dans une crise profonde. La crise financière de 1837 a alimenté la pire récession du pays, qui s'est poursuivie pendant au moins une décennie, forçant la fermeture complète de 343 des 850 banques aux États-Unis et la faillite partielle de nombreuses autres. Pendant la panique de 1873, connue sous le nom de longue dépression, la bourse de New York a suspendu ses échanges pour la première fois de l'histoire et de nombreux Américains se sont retrouvés sans le sou. Cependant, le début officiel de la Grande Dépression a eu lieu en octobre 1929, lorsque le marché boursier américain a subi un crash massif, les années folles étant le principal facteur responsable. cela a conduit à une vague de faillites bancaires, bank run aux États-Unis entre 1930 et 1932. La grande récession de 2008 a marqué le plus grand ralentissement économique aux États-Unis depuis la Grande Dépression, lorsque deux banques d'investissement, Bear Stearns et Lehman Brothers, ont fait faillite. Selon les experts, la dernière crise financière montre qu'aucune banque américaine n'est suffisamment grande ou solide pour éviter une crise.
Thank you.